manifestation. Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois pris le clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bienvenue à vous sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. C'est À bâton rompu qui démarre, qui redémarre. Magazine d'info tous les mardis de 19 à 20h. Première émission de l'année 2026. Recevez nos meilleurs vœux, hein, les meilleurs, enfin essayez en tout cas d'être heureux, que 2026 soit belle pour vous le plus possible. Pour la première émission de cette nouvelle année, nous avons invité Pascal Sudre, secrétaire général de l'Union départementale CGT du Loiret. Bonsoir Monsieur Sudre. Est-ce que... Oui, si je n'ouvre pas le micro...
Voilà, c'est peut-être mieux.
J'ai pas changé en fait.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la liquidation judiciaire de Brandt, un groupe d'électroménagers, un groupe centenaire, en fleuron ils disent, un fleuron vraiment, quand on lit les articles depuis cette annonce, 700 emplois supprimés. La décision a été annoncée le 11 décembre dernier et quelques jours plus tard, le 24, jour du réveillon de Noël, une conférence de presse organisée par le maire d'Orléans et président de la métropole nous apprenait qu'un entrepreneur, M. Stéphane Français, proposait un plan de reprise partielle pour l'usine Brandt de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Que pense votre syndicat CGT de ces épisodes? On en parle avec vous, on en parle avec Thomas. Bonsoir Monsieur Duret.
Bonsoir Monsieur Kerim.
Micro ouvert, tout va bien avec
vous? Ouais, ça va, c'est bon, t'as bien géré.
Et Philippe Adef.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir à Philippe. Philippe qui démarre toujours cette émission avec son édito.
Oui, tous responsables et tous coupables. Voilà ce que je retiens de l'aventure algérienne de Brandt en cette fin tragique annoncée à quelques jours de Noël pour les salariés. Syndicats, collectivités locales, État français, personne n'a visiblement pris en considération les signaux alarmants venant de l'autre côté de la Méditerranée. Pour rappel, Brandt France a été mis en redressement judiciaire en 2014 et a été cédé à l'entreprise algérienne Cevital, une entreprise détenue à 100% par une seule et même famille, la plus riche d'Algérie, la famille Rebrab. C'est un peu l'équivalent en Algérie de la famille Arnaud en France. Et comme la famille Arnaud, la famille Rebrab était très présente également dans les médias algériens, notamment avec son quotidien Liberté et son actionnariat majeur dans une télévision kabyle, des médias plutôt hostiles au gouvernement. Les militaires vivront d'ailleurs très mal le soutien du quotidien aux manifestations populaires contre le régime qui scellera le destin du patriarche familial et par extension à Brandt France. Contraint à la fermeture, alors que financièrement le quotidien Liberté était en bonne santé financière, un cas rare dans les médias classiques, Issa Drebrard sera lui emprisonné, condamné pour des soi-disant malversations financières et interdit de gestion. Cevital reste néanmoins dans le giron de la famille, mais avec une autonomie plus que relative. C'est le moment de bascule. Cevital ne viendra plus alimenter la trésorerie de Brandt France, qui a toujours été sous perfusion, et on peut même supposer que la fin de Brandt France a été décidée à cette période. Pendant ce temps, en France, c'est le silence. Visiblement, cette situation tout de même hors norme, sauf pour l'Algérie et les dictatures à travers le monde, n'a ému personne. Ni l'État français, ni les collectivités locales, ni les syndicats. Et ce qui devait arriver, bref, Brandt France est mis à mort sans autre procès. Et maintenant, du côté des élus, on nous sort les larmes, les longs discours, liquidation de Brandt France, une évidence pour le tribunal de commerce puisque la trésorerie ne permet pas le versement des salaires. Et médiatiquement, on s'agite. Eh bien oui, il y a des élections en France et la fermeture de Brandt fait tâche. Serge Grouard, le prince d'Orléans, ira même jusqu'à sortir de son chapeau un repreneur français du nom de Français. Un industriel étonnant dont la solidité financière est plus que discutable. Alors que Brandt survive, pour que Brandt survive, je le souhaite pour l'ensemble des salariés, mais arrêtons de rêver. Nos élus, notre gouvernement n'ont rien vu venir parce qu'ils sont incapables d'analyser et de se projeter. Ils seront d'ailleurs tout aussi incompétents à faire émerger une solution industrielle au drame de cet énième épisode de la désindustrialisation française.
Radio Campus Orléans, vous écoutez l'émission À bâton rompu.
Une première réaction, M. Sudre. Je sais que dans beaucoup d'interviews que j'ai lues de vous, vous dites qu'il y a un avenir encore pour Brandt et ses salariés.
Ouais, tout d'abord, j'ai bien fait de venir à Radio Campus ce soir parce que c'est la première fois qu'on entend parler justement du groupe Cevital.
Absolument.
Et on était les seuls à s'étonner. Du coup, de ne voir dans aucun média et dans aucun article de presse le nom de Cevital, alors que c'était quand même l'entreprise qui possédait Brandt et qui a demandé justement le redressement judiciaire depuis un certain nombre d'années, 2014 je crois. Et donc dans l'édito, je pense que tout est très bien expliqué. Et ça met bien en évidence l'incapacité des gouvernements qui sont succédés, y compris une responsabilité en tout cas des collectivités locales, de ne pas avoir pris leurs responsabilités pleines et entières. Alors après, la réaction, voilà, la CGT, elle a toujours été la même. C'est pas la CGT qui décidera de quel repreneur, de quel projet industriel, même si, bien évidemment, on donnera notre avis comme actuellement on donne notre avis. Ce matin, j'ai eu un échange avec un possible repreneur de l'entreprise Brandt. Il y a de ça 2 heures. Oui. Mais voilà, c'est pas, en tout cas, ça saurait, c'est pas la CGT qui décidera
du projet. Un repreneur qui a été proposé par la région, notamment, et par DEVOP. Je ne donnerai pas le nom, hein, mais simplement pour qu'on comprenne ce qui se passe également dans les coulisses.
Philippe a des fois des infos.
Ça on ne m'a pas tout dit. Hein, oui. C'est une entreprise bretonne, en tout cas, une start-up.
Mais alors, vous êtes intéressé à ça, on vous appelle autour de la table, c'est quand même important. Il y a un truc, vous dites que la CGT ne peut pas décider d'un plan de reprise pour Brandt, mais vous êtes intéressé, on vous intéresse à toute cette discussion.
Donc. Après, nous, on reste bien entendu à notre place et on ne prendra pas la responsabilité des autres. On est un syndicat de travailleuses et de travailleurs. Et voilà, on n'a pas forcément ni l'ambition ni la prétention de décider à la place des autres. Notre rôle, c'est tout d'abord ce qui vient d'être dit dans l'édito, et c'est le plus important, c'est les salariés concernés.
Oui, bien sûr.
700 salariés, alors même si du coup on a tendance malheureusement à s'habituer des plans de licenciement qui s'amoncellent. La CGT a recensé plus de 483 plan de suppression d'emplois, c'est du jamais vu, même pendant les grandes crises.
Juste avant Noël.
Juste avant Noël. Donc nous, notre souci premier, alors même si certains nous traitent de doux rêveurs, mais toujours est-il que nos dernières mobilisations ont permis de mettre en avant le fait que il y avait 700 salariés qui étaient sur le carreau, qui attendaient leur lettre de licenciement qu'ils ont reçue il y a 2-3 jours. Donc ça veut dire qu'ils ont passé les fêtes avec leurs conjoints, conjointes, mais je pense aussi aux enfants, parce que quand on a soi-même été enfant et connu ces périodes de licenciement, je peux vous dire que c'est vraiment des traumatismes qui vous marquent à vie. Voilà, faut vraiment l'avoir vécu pour pouvoir en parler de cette manière-là.
J'invite les auditeurs et auditrices à aller lire un article intéressant dans La République du Centre d'aujourd'hui, Anne-Laure Lejean, qui a rencontré une salariée. C'est vraiment poignant. Elle explique comment elle a appris cette histoire, elle attend des informations, elle a son téléphone, et quand on l'appelle pour lui dire ça y est, c'est bon, c'est fini, liquidation judiciaire, il dit je tombe sur mon canapé, je pleure.
C'est terrible. Et c'est de ça, en fait, de cette souffrance à la fois matérielle, parce que les salaires ne tombent plus, souffrance psychologique, un drame aussi pour ces familles-là qui souvent cette entreprise-là, c'est une entreprise un peu familiale, même s'il la possède pas, parce qu'il y a eu plusieurs générations d'une même famille qui ont travaillé dans cette entreprise-là. Voilà, et c'est pour ça que voilà, et je reprends aussi l'édito. Je pense que les salariés n'ont pas besoin de discours, de pseudo-vérité ou de larmes de crocodile devant l'entreprise et d'annonces. Faites, et je l'ai redit à plusieurs reprises, la CGT l'a dit, d'annonces faites 24 heures avant Noël et quelques heures avant le réveillon. Alors nous, la CGT, on a malheureusement, on croit plus au Père Noël, mais je pense que les salariés, je ne sais pas quel effet ça leur a fait de cette annonce, comme si c'était une annonce, un cadeau, quoi. Alors que depuis, il y a plein de choses qui ont été dites sur... au-delà du PDG, sur ce groupe, sur les assignations en justice, du coup, une partie des actionnaires de ce groupe Topson assigne en justice le PDG Stéphane Français. Donc rien de vraiment très bon pour l'avenir, en tout cas aujourd'hui, en termes de projet industriel, quant à ce projet proposé. Et puis je vous dis encore une fois, les conséquences, je crois que les salariés n'avaient pas besoin de ça, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver du travail, et puis si possible, Brandt, et nous, c'est vraiment... là-dessus qu'on va travailler, quoi.
C'est Philippe.
Oui, je veux juste rebondir d'abord sur Thomson et Monsieur Français. Il faut quand même rappeler que ça fait 10 ans maintenant qu'il est propriétaire de cette entreprise, qu'il vient d'afficher pour la première fois un bilan avec une marge nette excédentaire de 100 000 euros pour un chiffre d'affaires de 53 millions. Ouais. Bon, voilà, on peut s'inquiéter un petit peu de cette reprise potentielle par un industriel qui probablement ne manque pas de courage, mais visiblement un peu de liquidité.
Eh bien, on va l'écouter. Je sais pas si
on
va
l'écouter.
Il est passé sur BFM avec le maire d'Orléans, président de la métropole. Écoutez ce qu'il disait sur la reprise.
Vous voulez reprendre Brandt, pourquoi ? Alors bon, déjà, comme vous le savez, en fait, moi j'ai repris Thomson en fait sur la partie informatique à 14 ans. Donc j'ai prouvé qu'il y avait une solution française qui pouvait être mise en avant et réussir en fait dans l'informatique, qui est pas le secteur le plus facile, hein, avec un marché à 258 milliards, 6 géants chinois et américains, chinois, taïwanais, américains, et un petit français au milieu. Et donc moi j'avais l'ambition évidemment de d'apporter une solution en fait à Brandt. Et donc je suis allé sur Orléans, j'ai rencontré en fait évidemment le maire d'Orléans ici présent, et c'est vrai que ça matchait aussi avec lui, ses équipes. J'ai senti énormément de volonté, énormément de dynamisme, énormément d'action pour trouver une solution. Et puis historiquement, vous le savez sûrement, Brandt, ça appartenait à la famille Thomson. Moi, mon père a fait 30 ans chez Brandt Thomson. Thomson a 132 ans maintenant. Et Brandt vient de fêter ses 100 ans. Donc, naturellement, j'avais envie d'essayer de réfléchir à une solution. J'en ai trouvé une. Évidemment, une solution en fait industrielle, une solution où il faudra diversifier les produits, une solution où il faudra faire autrement, aussi avec moins de personnes au début.
150 personnes, vous gardez 150 personnes, c'est ça?
Voilà, il y aura 150 personnes qui seront embauchées. Comme
sur
vous le savez,
350
en fait, non, sur 318 de mémoire sur Orléans. C'était le chiffre qui a été donné en fait malheureusement il y a deux semaines quand il y a eu la liquidation. Et effectivement, je reprends une partie des gens, la moitié. Il y a d'autres personnes qui arriveront aussi pour compléter l'équipe. On n'est pas contre le fait de reprendre plus de personnes, mais d'abord on va réussir avec les gens et les personnes très motivées sur un schéma nouveau. Moi, comme je l'ai dit ce matin à toute la presse, moi ce qui m'intéresse, c'est de proposer une solution aux salariés pour qu'ils deviennent actionnaires. Et je le dis là sur votre plateau, mon objectif c'est que au bout de 5 ans ça a marché dans ma société Metavisio Thomson, les gens deviennent actionnaires sur leur motivation, sur leurs actions, sur leur fidélité. Évidemment, je vous l'ai dit, je cherche pas des salariés, je cherche des associés.
Je ne cherche pas des salariés, je cherche des associés. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pascal Sudre, cette
Ouais, après c'est un discours qui est pas nouveau pour nous, hein, ouais. Dans la co-gestion, des collaborateurs, des associés. Bon, après là c'est un discours, voilà, qui plaît, mais dans la vraie vie des entreprises, établissements et services, on n'est pas associé. Hein. Il y a un donneur d'ordre, il y a un patron, il y a un contrat de travail, il y a la notion d'hiérarchie, subordination. Voilà, il y a le patron et puis il y a les salariés. Alors je dis pas que dans toutes les entreprises tout se passe mal, mais force est de constater que les conditions de travail se dégradent partout. Et puis, on n'est pas associé quand on a un contrat de travail. C'est faux de dire ça. Donc, je pense encore une fois que c'est pas forcément et j'en suis même persuadé, le discours qu'attendent les salariés.
Je crois, Monsieur Sud, en plus, qu'il y a une question de sémantique. C'est que quand il parle de salariés associés, il n'exprime pas un besoin de capital pour rentrer dans la société, mais plus de dire il faut que les salariés s'investissent. Finalement, c'est là où moi ce discours m'exaspère. C'est quand une entreprise fonctionne, elle fonctionne avec ses salariés. Si ses salariés sont pas motivés, si on n'arrive pas à les motiver, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc on est tous nécessairement, en tant que salarié, associé à l'entreprise. Alors pas dans la structuration financière et dans le capital de l'entreprise, mais tous les salariés sont déjà impliqués dans leur entreprise. Moi, une entreprise ne fonctionne pas.
C'est ce qu'on appelle la production de richesse, hein, qui est avant tout produite par les travailleuses et les travailleurs.
Donc voilà, c'est il faut le dire et le redire. Et un autre son que je vous propose, celui de monsieur Yves Stébé, qui est je connaissais pas avant cette histoire, expert en stratégie de communication numérique. Il a un blog hébergé par Mediapart notamment, et écoutez le parler de monsieur Stéphane Français pour qu'on sache exactement ce qu'est cette boîte là, Metavisio. Écoutez ce qu'il dit. Oh, je crois qu'il aime pas trop, je crois. Écoutez ça.
L'affaire Brandt Thomson Computing s'est transformée en une série de bobards. Thomson Computing n'existe pas. La société s'appelle en réalité Metavisio. Elle est en quasi-faillite. Thomson n'existe plus depuis de nombreuses années. Thomson a vendu sa R&D. Thomson a vendu sa marque. Thomson a vendu ses brevets. Il n'existe strictement plus rien. La promesse d'embauche de 150 personnes est une fake news. Monsieur Français l'a dit lui-même.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer une solution aux salariés pour qu'ils deviennent actionnaires. Évidemment, je vous l'ai dit, je ne cherche pas des salariés, je cherche des associés.
Metavisio est une société cotée en bourse. Regardez le cours. Le cours est nul. Regardez le chiffre d'affaires de Metavisio. C'est un yo-yo qui varie en fonction des prêts accordés à l'entreprise. Les pertes sont aussi un yo-yo, entre 0 et moins 5 millions d'euros. Regardez les avis des clients. Une honte. Fuyez cette entreprise qui arnaque les gens et ne croyez jamais leur offre. Beaucoup de choses à dire sur cette marque. Comme beaucoup, je veux consommer français, mais il y a énormément de problèmes à résoudre pour arriver à la hauteur des concurrents. Ordinateur de très mauvaise facture. Je l'ai retourné deux fois. Deux fois, j'ai eu des soucis avec le magasin. Ils m'ont dit de contacter Thomson directement. Le futur de l'informatique? En tout cas, celui de l'amateurisme et du mépris.
Et là, monsieur Stémé lisait du courrier de gens qui ont eu affaire à la boîte. Ça fait peur, quand même, non?
En tout cas, il nous dresse un tableau super, super intéressant de l'entreprise à venir.
Vas-y. Ah ben, le cours de l'action, là, actuellement, oui. Il est à 0,0041 euros. Quand il était à 9 euros en mai 2022, c'est ce que nous rapporte la République du Centre.
Mais ça sert à quoi alors que Serge Gouard et Pascal Thébivel nous amènent ce monsieur en nous disant.
Si, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important chez Brandt. Oui. C'est que dans la corbeille, oui. Il reste des choses. Alors, il reste les marques, oui. Hein, qui sont encore propriétaires de Brandt, qui pourraient être dans l'escarcelle aussi de la liquidation, c'est les actifs. Et aussi 55 000 mètres carrés de terrain.
Et bien sûr.
55 000 mètres carrés de terrain dans une commune quand même relativement conséquente, dans un lieu où finalement le mètre carré est quand même relativement conséquent. Ouais. Et puis, les bâtiments industriels, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Hein.
On en est d'accord.
Des bâtiments de cette qualité, avec cette hauteur sous plafond, on peut véritablement développer une entreprise industrielle. Vous n'en trouverez pas, peut-être d'autres d'ailleurs sur le territoire de la métropole.
Et on a entendu parler également de possibilités de fabriquer des drones. Hein, vous savez que ça peut...
Bon,
ça
visiblement, il y a un marché. En ce moment.
Oui. Il y a un marché pour.
Bah, il y a une concurrence aussi, peut-être à Bourges, par exemple.
Peut-être trouver des actionnaires en Russie.
Ouais. Oui, bien sûr. Mais, et donc, les élus des collectivités locales iraient peut-être vers ça aussi, parce qu'en se disant, ça peut être une niche. Vous avez entendu parler de ça à la CGT ou pas? Ou les autres syndicats?
On a écouté la presse et on a entendu les mêmes choses, mais on a entendu un petit peu tout et son contraire. Après, bah oui, les drones, dans le contexte actuel et quelques jours après l'attaque terroriste des États-Unis contre le Venezuela, bien sûr, on rentre en plein dans le film de faut transformer les industries en industries de guerre et puis mettre plus d'argent au niveau du budget de l'État pour l'armement. Voilà, et certains élus n'hésitent pas du tout à s'inscrire complètement là-dedans. Après, nous, notre souci aujourd'hui, et je leur dis encore une fois, notre souci, c'est le souci des salariés avant tout. Hein. C'est quel que soit le projet industriel qui sera retenu, alors bien sûr, on souhaite le meilleur projet industriel.
Oui, parce que j'imagine que vous espérez aussi un repreneur et un projet qui s'inscrive dans le temps et qui ne fasse pas faire des montagnes russes aux salariés, les quelques salariés qui auraient été repris.
Voilà, c'est un peu ce que vous avez dit dans votre édito, c'est-à-dire que les collectivités locales qui souvent aident gracieusement quand même les entreprises, notamment le conseil régional, à s'installer, sans forcément demander des comptes deux ans après quand l'entreprise met la clé sous la porte et part avec l'argent sans avoir remboursé. Je pense qu'il y a une responsabilité importante des collectivités locales déjà sur le projet industriel qui sera retenu, alors même si c'est bien sûr le tribunal, mais on sait que c'est un enjeu derrière éminemment politique dans les plus hautes sphères de l'État, même s'il s'en cache bien, on sait comment ça se passe dans la vraie vie. Et puis après, les projets, de toute façon, apparemment, la date butoir est fixée, je crois, au 28 janvier, mais l'information n'est pas forcément pour l'instant officielle, même si ça le devient, 28 janvier. Donc on en saura un peu plus, mais je vous dis, j'ai eu un échange il y a quelques heures avec un possible repreneur. Voilà, donc, mais la problématique centrale, c'est le nombre de salariés qui va être pris. Après, nous, ce qu'on a proposé à la CGT, parce qu'on n'est pas industriel... Mais par contre, on a bien conscience de la situation actuelle géopolitique, mondiale et du système capitalisme dans sa globalité. Il faudra de toute façon, pour que ça soit un projet industriel viable, qu'il y ait un projet de diversification dans la production. Et je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord, même sans être industriel soi-même. Et on le sait aujourd'hui, voilà, que ça sera un gage de pérennité pour ce projet qui sera retenu. De l'autre côté, financièrement, même si on nous dit, voilà, le problème financier, alors, à la CGT en premier, on dit souvent que c'est pas un problème d'argent, même si on sait que derrière la question financière est éminemment importante, notamment quand on parle de projets industriels. Mais derrière, on l'a vu récemment, c'est-à-dire que les collectivités locales, en, je dirais 72 heures, ont été en capacité de trouver, je crois, 17 millions d'euros et 5 millions pour l'État en 72 heures. Donc, si mes calculs sont bons, je pense qu'avec un peu plus de temps et un peu plus d'engagement politique, notamment de l'État, du gouvernement et du président de la République, je pense qu'on peut trouver l'argent nécessaire pour consolider un projet industriel dans le temps avec des garanties derrière, parce que ce qu'il faut, c'est les garanties. Et aujourd'hui, alors, je le dis officiellement parce que j'ai toujours pas, on n'a toujours pas de réponse au niveau de la CGT. On a reçu, on a été reçu en délégation, mais en l'absence quand même de la préfète qu'on a soulignée. On s'est étonné qu'elle ne soit pas présente vu la situation de Brandt et des 700 salariés. Et donc, on a demandé à la préfète, et c'est de ses prérogatives, de mettre ce qu'on appelle sous cloche les outils de production. Et ça, c'est un élément très important parce que...
Quand vous dites sous cloche les éléments de production, vous englobez là-dedans également le foncier, je suppose, et le bâtiment.
Oui, bien sûr. Ça rejoint ce que, du coup, vos propos hein, sur le bâtiment, les hectares de disponibles pour différents projets. Et donc, mettre sous cloche, ça veut dire protéger, en fait, les outils de production, parce que du jour au lendemain, le liquidateur judiciaire pourrait décider d'envoyer ses outils de production dans un autre pays où la production est plutôt à bas coût et notamment les salaires.
Et ça, c'est vu.
Ça se fait, en fait, très rapidement, encore plus quand il n'y a pas de mouvement de grève dans l'entreprise et les salariés ne protègent pas l'outil de production. Ouais. Donc, ça peut se faire très rapidement. Et on a soulevé cette question-là donc à la préfecture, mais même si la préfète n'était pas là. Et j'ai réinterpellé de nouveau cet après-midi la directrice de cabinet. Je n'ai toujours pas eu de réponse parce que c'est de la prérogative de la préfète qui peut prendre la décision de protéger ses outils de production, notamment sur les deux sites, Saint-Jean-de-la-Ruelle et à Vendôme-Saint-Ouen. Voilà. Parce que si ces outils sont pas protégés, du coup, on peut reparler autant qu'on veut de Brandt de la suite, mais il y aura plus d'outils à l'intérieur, donc... Entre nous, les perspectives sont nulles. Enfin, il y aura pratiquement aucun projet qui sera viable dans le temps.
Alors, en plus, l'État pourrait être d'autant plus dans son bon droit, parce que je suppose qu'ils ont dû avoir aussi une note salée. J'imagine que les plans garantis, les PGE, les fameux crédits qui avaient été alloués pour passer le cap de la Covid, je suppose qu'ils n'ont pas été payés par Brand France. Ce serait très étonnant.
Ah oui, alors.
D'autres chèques qui ont été faits pour accompagner l'entreprise qui n'ont pas été remboursé par l'actuel, enfin jusqu'à il y a peu de temps, le précédent propriétaire. Donc là, il y a des légitimités par rapport à l'État de dire on veut bloquer pour pouvoir éventuellement même revenir dans nos sous, quoi, finalement. Mais
c'est pas incohérent. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On parle beaucoup de réindustrialiser la France, c'est des discours que l'on tient depuis quelques années maintenant. Quelle est votre position là-dessus à la CGT? On voit bien que les emplois industriels se perdent en France, beaucoup, et on n'a pas vraiment de plan là de
En tout cas, au-delà de la volonté affichée, qui est juste un discours, dans la réalité, et c'est pas simplement sous le règne d'Emmanuel Macron. Hein, ouais. Ça fait plus de 50 ans, en
Absolument.
Fait, hein, quels que soient les présidents de la République qui se sont succédés et leur gouvernement. En fait, il n'y a eu aucune planification dans le temps industriel. Et ça, c'est un élément important parce que, normalement, enfin, ce qu'on a appris un petit peu à l'école, c'était quand on était aux manettes de l'État, on devait avoir une planification industrielle dans le temps et pas simplement à l'échelle de son mandat.
D'autant qu'on a eu un haut commissaire au plan, on a eu un grand penseur qui a même été Premier ministre à la suite. Il est resté, je crois, 10-15 ans commissaire au plan, mais on n'a pas vu la queue d'un plan.
Tout à fait.
Trop communiste.
Après, sans aucune planification, on voit ce que ça donne. Et puis, très sincèrement, il n'y a aucune volonté politique aujourd'hui de réindustrialiser la France, sinon ça se saurait. Alors, quand on nous dit au plus haut sommet de l'État ou les représentants du gouvernement qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien et que tout ferme et il n'y a pas de création d'emplois, oui, il y en a, mais... sans avoir fait maths P, on fait simplement une petite soustraction et on voit que le nombre d'emplois supprimés est supérieur au nombre d'emplois créés et très 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 largement, quoi. Donc il y a vraiment une inquiétude mais énorme, quoi. Et si on en revient, parce que c'est important aussi pour les auditeurs de bien comprendre ce qui se passe, c'est 700 emplois en moins. Alors même s'ils sont pas, si on prend simplement les 350 sur Saint-Jean-de-la-Ruelle, Avec les emplois induits, c'est-à-dire les emplois de service, on multiplie par 3. Voilà, ça fait à peu près plus de 1000 salariés qui peuvent être victimes de licenciement. Et puis, je vous dis, les conséquences dramatiques dans les familles, pour les enfants, enfin, c'est... voilà. Et puis, derrière, alors nous, c'est vraiment notre mot d'ordre à la CGT, et ça se vérifie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre avoir des services publics sans industrie, et on ne peut pas non plus avoir d'industrie sans services publics. Et là, donc, une industrie qui ferme, eh ben, c'est un service public en moins, hein, quelque part, hein, même si ça prend un peu plus de temps, mais c'est ça qu'il y a derrière, hein. Et puis, c'est des territoires entiers, en fait, qui se meurent. Mmh. Et c'est ce qu'on constate depuis 50 ans, en fait. Et voilà. Et les politiques qui se suivent, qui veulent être élus, voilà, qui, au moment d'être élus, ont vraiment le discours qu'il faut. On va réindustrialiser la France. Ça fait 50 ans qu'on entend le même discours. Et bah, tous les mois, il y a une entreprise qui ferme.
Vous parlez justement de ces risques. En tant que secrétaire général de l'Union départementale, quelles sont les industries qui sont, à vos yeux, peut-être menacées à moyen terme? Est-ce qu'il y a des craintes sur certaines industries, sur certaines entreprises qui sont implantées dans le Loiret? Moi, je pensais à la situation de Shiseido, par exemple, parce que j'ai travaillé à Gien à un moment donné. Il y avait une mobilisation des salariés très très importante qui craignaient vraiment pour l'avenir et la pérennité de leur site.
J'ai en tête la boîte Orgafarm qui est située à côté de Pithiviers. Voilà, alors. La stratégie aujourd'hui du capital, parce qu'ils l'ont bien compris, pour éviter qu'il y ait des grèves importantes, des mouvements de blocage dans les entreprises, plutôt que de dire qu'il y a un licenciement général, on met la clé sous la porte, ils restructurent. Voilà, c'est le terme à la mode. On restructure, ne vous inquiétez pas, et c'est ce qui s'est passé dans plein de boîtes, hein, ces 10 dernières années. Donc souvent, il y a 2 sites. Donc ne vous inquiétez pas, on va faire des économies d'échelle, on restructure le groupe. Donc plutôt d'avoir 2 sites, on mélange tout, on met tout le monde sur le même site, on fait des économies d'échelle. Mais il n'y aura pas de perte d'emploi. Et puis l'année suivante, ben voilà, c'est un plan de licenciement qui est annoncé. Alors voilà, ils font ça maintenant par étapes. Ils ont compris un peu, ils ont étudié la psychologie des travailleuses et des travailleurs, et surtout des syndicats. Et donc voilà, eux pour eux, ils prennent le temps qu'il faut pour mettre en œuvre leur stratégie. Voilà, j'ai en tête aussi une situation quand même emblématique, Hutchinson, située à Chalette, parce que c'est quand même une entreprise emblématique du coup pour le Loiret. Un grand groupe aussi, hein, qui depuis de longues années supprime des postes, restructure. Et puis l'objectif finalement de ce groupe-là, c'est de supprimer tous les postes, toute la partie ouvrière en fait, et puis de garder uniquement le laboratoire, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et tout le monde le sait. Et pour revenir finalement aux responsabilités politiques, du coup, rien n'est fait parce que au moment où on les interpelle, j'ai en tête Vancorex, hein, c'est pas dans le Loiret, mais l'entreprise Vancorex, du coup, il y a un projet en plus parce que c'est aussi l'importance que les auditeurs comprennent que les syndicats non seulement sont pas que là pour dire on n'est pas d'accord, on n'est pas content, et on est là pour défendre bien sûr les salariés, mais très souvent, et le plus souvent, les syndicats, dont la CGT, est force de proposition. C'est-à-dire que pour Vancorex, il y avait un projet de skip. C'est comme une scope, hein, une forme un peu différente. Et qui tenait la route, en fait, hein, c'était possible. On demandait simplement un peu plus de temps pour avoir un portefeuille, entre guillemets, assez important. C'est-à-dire qu'il y a un financement qui puisse permettre, justement, la création de ces skips. Mais... ce délai, en fait, ne nous a pas été attribué, et ça ne nous a pas été attribué. D'ailleurs, il y a eu un débat, je crois que c'était sur France 2, entre notre secrétaire général Sophie Binet et le président de la République, qui a été interpellé sur cette question-là, mais en fait, il n'a pas répondu à cette question précise, parce que là, du coup, on n'était pas ni sur un projet de demande de nationalisation, il y avait un projet concret, travaillé, proposé par la CGT, et soutenu par les autres organisations syndicales, qui tenait la route. On demandait simplement du temps supplémentaire pour pouvoir récupérer l'argent nécessaire pour porter le projet devant le tribunal. Et ça a été refusé, alors pas simplement par le tribunal, parce qu'on sait comment ça se passe, par le plus haut sommet de l'État qui veut pas de cette forme de structure voilà de au niveau des salariés quoi. Et ça c'est voilà, c'est inadmissible quoi, c'est inadmissible.
Pascal Sudre, secrétaire général de la Confédération
de l'Union,
de l'Union départementale de la CGT, Confédération générale des travailleurs ou du travail. Hein, du travail
du
ou
travail,
des
travail du travail.
Du travail. Ah non, parce que travailleur c'est trop genré.
Ah bon.
Maintenant ça se fait plus ça, c'est travailleur travailleuse et du travail c'est plus sympa.
Travailleuse,
c'est mieux.
Non mais sauf qu'on n'est pas heureux.
On va déjà tant qu'on a du travail c'est
on va consacrer la deuxième partie de cette interview justement à parler de votre syndicat, d'un peu de son histoire juste après ceci.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
La CGT créée en 1895. Ça fait un bail, hein. Ça, c'est, je dis ça pour les jeunes. Hein,
à qui, non, mais vraiment, tu parles pour moi, là, vas-y.
Non, mais pas pour toi. Toi, tu sais, j'ai parlé de syndicalisme à des jeunes qui disent. La question, Philippe, on a parlé un peu, c'était à quoi servent les syndicats aujourd'hui pour les jeunes La CGT est arrivée à un moment où c'était possible de faire des grandes manifestations, des grandes mobilisations. Et il y a eu quand même quelques luttes sociales qui ont payé. Bah oui, les jeunes qui écoutent, là, je vous l'avais dit, y en a qui m'ont dit, oui, mais à quoi ça sert un syndicat ? Alors ?
Je dois répondre ?
Ben oui.
Je vais répondre. Moi,
je vais faire juste une petite aparté là-dessus parce que une question importante. Il y a très peu de syndicats en France. À peu près 8 à 9% des personnes.
C'est ce qu'ils disent, les jeunes. Ah. Ils disent, mais ça sert à quoi que j'y aille?
Il n'empêche que la première chose que les personnes non syndiquées pensent au moment où ils ont des difficultés avec leurs salariés, c'est d'aller rencontrer leur responsable syndical pour avoir des conseils pour pouvoir éventuellement faire valoir leurs droits.
Absolument.
Donc, à quoi sert un syndicat? À pouvoir justifier du droit du salarié de pouvoir le défendre. Et ça, ça se fait si on est évidemment syndiqué, évidemment, mais même si on ne l'est pas. Mmh. Et moi, je suis toujours un peu dubitatif quand je vois qu'effectivement, il y a si peu de personnes syndiquées, mais autant de personnes qui sont prêtes à ouvrir la porte du syndicat pour aller demander conseil parce que leur situation vient de se détériorer il y a quelques heures, quelques jours.
Mmh. Oui, bah après, dans votre question, c'est la question qu'on se pose habituellement, et puis c'est surtout souvent les retours qu'on a. Après, suivant la personne qui prononce ces mots, bon, voilà, on a la réponse. Là, votre question, elle est intéressante. C'est en lien aussi. Moi, je la mettrai en lien avec l'actualité, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que oui, on n'est pas, y compris à la CGT, assez nombreux à être syndiqués pour pouvoir peser finalement sur le débat qu'on vient d'avoir à l'instant sur le débat public et pour créer les conditions d'un rapport de force à la hauteur des enjeux, parce que on le sait, les grandes luttes, les grandes victoires, on les a obtenues parce que on était plus nombreux à être syndiqués. Hein, c'est toujours une question de rapport de force, que ce soit syndical, dans les collectifs, quels que soient les collectifs, au travail, même entre amis, des fois, voilà, c'est le plus fort, enfin, le rapport de force qui fait que la décision est prise. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, mais quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur en arrière, finalement, on se rend compte que, y compris, je vais parler de la CGT, elle n'a pas toujours été à 5, 3, 1 million. On a des périodes où on était 300 000, 400 000. Oui. Alors même si la population était moins importante, donc faut faire le ratio, mais pour autant, à certaines périodes, on n'était pas très très nombreux et pourtant on a pesé. Ça, c'est la première chose.
Oui, parce que
chose.
Vous êtes aussi les seuls interlocuteurs organisés.
Hein. Bien
sûr. C'est difficile pour le patronat, voire pour le gouvernement, d'avoir un interlocuteur autre qu'un syndicat.
Bien sûr. Depuis, donc, il y a eu la création d'autres centrales syndicales. Après, sur le constat qui nous ferait dire que ben on n'arrive plus à mobiliser, les manifestations, il n'y a plus grand monde. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit ça. De toute façon, ça rassemble le plus grand monde. Et du coup, en 2023, donc c'est récent, c'est vraiment très contemporain. Et ça a surpris tout le monde, y compris un petit peu nous, la CGT, hein, de nous rendre compte que finalement, malgré les débats, malgré le contexte, le climat, où on disait les gens sont résignés, sont individualistes, ouais, c'est souvent le mot qu'on entend ça. Eh bien, finalement, on a créé les conditions, dans le cadre unitaire aussi, il faut le dire, de manifestations historiques. Parce que nous, de mémoire, dans d'anciens camarades retraités, on n'avait jamais vu autant de monde, y compris à Orléans, mais particulièrement en 2023 dans les communes, en fait. Nous, dans ce qu'on appelle nos unions locales. Et je parle souvent de ces unions locales parce que c'est un élément en fait qui a fait beaucoup peur aux élus locaux. De voir autant de monde, moi je pense à Beaugency, Montargis, alors Montargis il y a souvent un peu plus de monde, mais Pithiviers notamment. Et Gien. Et ça a fait peur à tout le monde. Et là, d'un seul coup, c'était plus, les syndicats n'arrivent plus à rassembler. Voilà. Donc voilà, suivant le contexte dans lequel on est, on a tous tendance un peu à relayer ce qu'on entend à la radio, à la télé. Et moi, le premier, j'ai tendance à dire attention, parce que de toute façon, mai 68, personne ne s'y attendait. Et c'est pas les syndicats en tant que tels qui ont impulsé mai 68. Après, le syndicat s'est raccroché. Et plus récemment, ce qui s'est passé en cette rentrée sociale, avec le mouvement Blocotout.
Oui.
Parce que finalement, c'est pas un mouvement qui a été impulsé au départ par une organisation syndicale. La CGT s'y est raccrochée très rapidement et fort heureusement. Mais finalement, c'était un mouvement citoyen, même si à l'origine, on peut critiquer l'origine de ce mouvement. Mais à la suite, finalement, c'était un mouvement vraiment citoyen progressiste, avec des revendications progressistes. Et ça crée une espèce de bouffée d'oxygène. Et on l'a vu en cette rentrée sociale. Ça faisait des années qu'on n'avait pas de rentrée sociale au mois de septembre. Et moi, je peux vous en parler le premier, parce que j'étais le premier à critiquer le fait qu'on ne puisse pas faire de rentrée sociale au mois de septembre.
Nous sommes écoutés en direct. Alors, l'étudiant qui m'a parlé, je vais donner ton nom, tu vas voir. Donc, il me dit, il faut que je précise. C'est vrai qu'il me l'a dit. Il dit, j'ai peur d'y aller parce qu'il a fini ses études. Il va être, je crois qu'il est apprenti, je pense. Il dit, la CGT est trop proche du Parti communiste. Mais sauf qu'il n'a pas lu l'histoire. Je crois que vous n'avez pas de lien.
Surtout, il n'y a plus de parti communiste. Ce qui règle le problème.
Mais non. Tu vas te faire des ennemis, toi.
Ici, je m'en fais tous les mardis.
Non, je crois que, sur cette question-là, en plus, faut vraiment parler d'histoire. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'à la CGT, on a un institut d'histoire sociale, du coup, qui permet de garder la mémoire de nos luttes et éviter que le capital s'empare de notre histoire. Et,
oui, puis la CGT n'est pas le seul syndicat potentiel sur le marché, j'allais dire. Voilà. Monsieur Sud, je comprends que vous fassiez la promotion de votre antenne, mais c'est vrai qu'il y a la CFDC, la CFDT.
Il y en a, mais
il y a FO.
Globalement.
Mais sur cette question, elle est importante parce qu'il y a eu un lien très, très, très important dès le départ, en fait. Entre la CGT et le Parti communiste français. Et je pense que nous, c'est notre histoire à la CGT, comme l'histoire est la même histoire avec le Parti communiste français. Il y a toujours des liens, mais il y a aussi d'autres liens avec d'autres partis de gauche, sans faire l'analyse dans le détail. Mais voilà, c'est notre histoire. Et c'est cette histoire-là qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire les grandes conquêtes sociales, parce que les conquêtes, les revendications portées à l'époque par la CGT, on a eu ce qu'on appelait le relais politique avec le Parti communiste français, qui représentait jusqu'à plus de 22% des voix à l'époque. Et c'est ce lien-là avec le Parti communiste français et du coup avec les élus, qui était présent aussi à certains moments, qui était présent en tout cas à l'Assemblée nationale, qui ont permis aux salariés, aux travailleuses et travailleurs d'avoir la satisfaction d'un certain nombre de revendications et d'avoir la conquête, les conventions collectives, la réduction du temps de travail, le SMIC, enfin voilà. Tout ce qui fait que on est sorti un petit peu de notre statut d'esclave, pour dire les tailler un peu dans la lâche, mais c'est un peu ça quand même. Voilà, c'est le syndicalisme en tant que tel qui a permis aux travailleurs d'avoir une place à part entière et de pouvoir avoir voix au chapitre dans l'entreprise. C'est ça, en fait, le syndicalisme.
Alors, Monsieur Sud, vous parliez tout à l'heure d'une mobilisation massive, historique, 2023. Alors, si je ne me trompe pas, on parlait beaucoup de la retraite à l'époque. C'était le mot d'ordre principal.
C'était sur la réforme des retraites.
Alors, donc, mobilisation historique, des millions de personnes dans la rue, des manifestations intersyndicales. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu tous les syndicats fédérés sur une même manifestation. Et puis au final, la retraite reste la retraite. Et puis bon, c'est pas les quelques mois qui nous ont fait gagner. Enfin, personne n'a rien gagné d'ailleurs dans l'arrêt de l'actuelle loi sur la retraite.
Tu peux rajouter la loi travail aussi avant,
oui,
qui avait aussi fait pchit.
Du coup, quel sentiment ça vous donne? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, visiblement, si vous n'êtes pas écouté, vous désespérez aussi peut-être ces nouvelles générations qui viennent vers le syndicalisme, qui ont l'impression que finalement, quoi qu'on fasse, quelle que soit la hauteur de la mobilisation, rien ne se passe?
Alors, on pourrait être dans ce discours-là, mais moi, le premier, j'ai jamais été dans ce discours-là, parce que je dis souvent, mais on le dit souvent à la CGT, déjà, seules les luttes qui sont pas menées sont perdues d'avance. Mais Le pire, ça serait de ne pas mener les luttes. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple, mais important, de cette mobilisation historique de 2023, et moi, j'ai pas peur de le dire, oui, on a perdu ce combat-là face à Emmanuel Macron, qui, quand même, faut le dire, c'est la première fois qu'on avait un président de la République dans un tel déni de démocratie, quand même. Il s'est assis, quand même, sur la volonté populaire, et c'était quand même du jamais vu. Mais même si on a perdu cette bataille, on n'a pas perdu le combat, parce que plus de 2 ans après, cette réforme scélérate des retraites est toujours dans la tête de la majorité de la population qui la rejette. Et ça, c'est du jamais vu. Parce que en général, quand il y a un combat qui est mené par les organisations syndicales et la CGT en l'occurrence, et une majorité de la population, on perd, du coup on passe à autre chose. Et je pense qu'Emmanuel Macron croyait qu'on allait passer à autre chose. Et l'exemple finalement, il ne s'est rien passé avec le gouvernement Lecornu, parce que c'est juste un report, finalement, qui a été négocié avec le Parti Socialiste. Donc là, il n'y a aucune victoire avec ce report. Du coup, voilà, la réforme reste en l'état. Mais malgré tout, ils ont été obligés de reparler de cette réforme des retraites qui est pas du tout acceptée, je crois, encore par plus de 70% de la population. Donc ça veut dire que quelque part, que cette mobilisation historique, même si sur le coup on a perdu, elle n'est pas encore perdue, cette bataille. C'est-à-dire que, et ça sera un enjeu fondamental pour la prochaine présidentielle, la question de la retraite, l'âge à laquelle on doit partir, et la question du financement, de la solidarité. Et c'est pour ça que, du coup, et moi, je suis très tranquille avec ça, parce que, y compris dans mon organisation syndicale, j'ai dit le premier qu'il fallait dire qu'on avait perdu, parce que le pire, c'est d'être dans le déni aussi nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut pas mentir. C'est-à-dire que malgré le combat exceptionnel, et puis surtout l'engagement, en fait, des salariés, parce que s'il y avait eu que les syndiqués dans la rue, on n'aurait pas été aussi nombreux. Donc moi, le premier, j'ai dit, il faut déjà saluer l'implication de la majorité de la population. Et souvent, je cite même une commerçante des Halles-Châtelet, il faut quand même le souligner, qui avait justement fermé boutique ce jour-là pour rejoindre la manifestation. Et je prends cet exemple-là parce que je pense pas que ça soit forcément une personne qui vote à gauche et qui est syndiquée à la CGT ou dans un autre syndicat, qui venait à la manifestation et qui disait, en témoignant, disant « Moi, j'ai voté Emmanuel Macron, mais pas pour ce projet de réforme des retraites. »
Oui, beaucoup, beaucoup.
Et donc, c'est pour ça que, moi, c'est un exemple, je prends à chaque fois, parce que je dis le premier, oui, il fallait dire qu'on avait perdu cette première bataille, mais pas le combat final contre cette réforme, parce que d'avoir des combats comme ça historiques, mener des luttes historiques sur plus de 6 mois, surtout dans les petites communes, je répète, parce que ça, c'était quand même un élément important, mais partout, dans toute la France, hein, pas y compris dans l'Oret, dans toute la France, ça nous a permis, du coup, de redonner du sens aussi au syndicalisme par rapport à la question de l'étudiant, de l'apprenti. Ah oui.
Qui nous écoute toujours.
Et par rapport à cette question, et moi j'ai aussi en tête un jeune de la CGT, parce que je fais partie maintenant des plus vieux, et je disais souvent, les jeunes, c'est l'avenir de la CGT, enfin en tout cas du syndicalisme. Et le jeune de la CGT m'a un petit peu engueulé en me disant, mais Pascal, arrêtez de dire qu'on est l'avenir, on veut être le présent.
Le présent.
Et je crois qu'il mais le mot, il est là, en fait. C'est-à-dire que les jeunes, c'est le présent, c'est pas l'avenir. Voilà. Il faut qu'ils soient partie prenante de ce qui se passe actuellement. Et s'engager dans un syndicat, notamment à la CGT, nous, on ouvre les portes, et c'est la raison pour laquelle on a décidé aussi de créer un syndicat étudiant, lycéen, apprenti, ce qu'on appelle l'ECLA, en fait. Voilà.
Ah ben voilà, parce que c'était la question de Stéphane, hein, je ne vais pas donner son nom, mais Stéphane était étudiant, donc il précise, oui, en droit, et là, il cherche du travail. Où est-ce que je les trouve? Alors, c'est la Bourse du Travail, hein, c'est
ça? Alors, il y a bien sûr la Bourse du Travail 10 rue Théophile Naudy à Orléans, mais on a aussi créé une application. D'accord. Qui est accessible, en fait, à tout le monde. Voilà. Il y a une partie réservée aux syndiqués, aux militants. Mais cette application, en fait, est accessible à l'ensemble de la population française, compris du Loiret et notamment des étudiants. Et ça donne, en fait, les informations principales, et notamment pour l'organisation syndicale, les mobilisations, enfin, en tout cas, l'actualité. Et donc, c'est un élément qui nous manquait encore plus aujourd'hui. Donc, on essaie de se mettre à la page. Voilà. Et je pense que cette application, en plus, est bien, bien perçue, notamment par les jeunes.
Bon, très bien. Et Stéphane qui dit « Monsieur Sudre m'a convaincu ».
Oui. Merci Stéphane.
Alors, j'ai quand même une dernière petite question avant qu'on passe au sujet suivant.
Oui. C'est ça.
C'est, combien ça coûte d'être syndiqué à la CGT? C'est quoi la cotisation mensuelle ou annuelle, je sais.
Alors pas. C'est le pareil pour tout le monde, hein, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa situation. Alors même s'il y a, quelques des fois, après, pour les étudiants ou les personnes qui n'ont peu de revenus, il y a des choses un peu particulières, mais d'une manière générale, c'est le même principe qui s'applique, c'est 1% du salaire net mensuellement.
1% du salaire net.
Oui. Très bien. Merci à vous, Monsieur Sudre.
Merci à vous
d'être venu. On avait plein d'autres choses, hein, reparler d'histoire. Moi, j'aime beaucoup ça, d'histoire syndicale en tout cas. Mais restez avec nous parce que nous allons parler maintenant de l'élection partielle dans la première circonscription du Loiret, des choses qui vous intéressent. Et puis on finira l'émission avec ce qui s'est passé au Venezuela. Je sais que vous êtes vraiment sensible à ça. Tout ça juste après ceci.
Avec Hassan Kerim.
Avec moi donc.
c'est ça. Pu. Si, voilà. Oui, pu. On a juste entendu pu.
Allez. Et donc Philippe avait un autre genre de coup de gueule, non?
Ouais, j'ai une deuxième partie parce qu'en fait je suis en colère, Hassan. Hein, je te le dis.
Coup de gueule.
Donc. Ouais, je suis vraiment en colère, hein, parce que. Ouais. Un député suppléant qui décide de ne pas siéger et qui oblige la ministre de la Santé à se lancer dans une campagne difficile alors que les sujets liés à la santé sont légion et urgents. Mmh. Comment pourrait-on nommer un élu de cet acabit? Un traître. Je vois pas d'autres qualificatifs. Inconsistant, incohérent, traître à sa patrie. Stéphane Chouin, puisque c'est de lui dont on parle, ne veut pas perdre son siège de maire à l'évidence et préfère laisser le pays dans une forme de fragilité temporaire. En réalité, je n'ai pas de mots pour qualifier cette attitude. En gros, il ne pense qu'à sa gueule et j'espère que les citoyens s'en souviendront lors de l'élection municipale. Si je suis battu, je démissionnerai, assume Stéphane Hirst, qui a au moins un peu d'épaisseur dans son engagement. Mais pendant ce temps, les médecins sont en grève. L'hôpital va mal. La sécurité sociale est toujours dans le rouge cramoisi. Mais Stéphane Chouin s'en fout. Il préfère imposer une nouvelle élection à Stéphane Hirst et peut-être la pousser à la démission de son portefeuille ministériel si son appartenance à la majorité présidentielle la pousse vers les abysses du moment, au moment du scrutin. Bref, je te le dis, Hassan, tout cela me dégoûte et mériterait une sanction réelle. Et je préconise l'inéligibilité de Stéphane Chouin pour l'exemple.
Oh là,
pour l'exemple.
Ouais, si vous connaissez M. Chouin, vous lui dites de ne pas écouter ce podcast, donc. on va quand même donner les candidats. Hein,
ouais. Bah oui. Alors, effectivement, on a Ghislaine. On dit Ghislaine ou Guylaine, j'arrive jamais à...
Mais Guylaine, ça fait...
Guylaine Kounowski, ouais, voilà, du Parti Socialiste qui repart, bah, une habituée, hein, pour le coup, hein, de la course.
Elle
hein,
était déjà...
Qui était arrivée troisième.
Je crois qu'elle s'était désistée
Attends que je revérifie. Seconde position, pardon, voilà, ouais, j'avais un doute. 31-47 au deuxième tour, oui. Alors qu'il y avait 31,6% pour Stéphane Hirst. Et en troisième position, il y avait eu, du coup, Tiffany Rabault du Rassemblement National, oui, qui se représente à nouveau. Oui. Et donc, Guylaine Kounowski s'était retirée de la course à ce moment-là, en 2024, pour faire barrage républicain et permettre ainsi à Stéphane Hirst de l'emporter face à sa concurrente du Rassemblement National.
Son suppléant est un monsieur que j'aime beaucoup. Monsieur Bertrand Oschkorn,
ouais,
maire de Maroprix.
Oui, exactement. On a aussi, alors là, on a quelque chose de nouveau.
Il faut peut-être juste dire Tiffany Ribault qui va se présenter, oui, également, oui, à la mairie d'Orléans.
Oui, Tiffany Ribault,
ça va être un des éléments intéressants du scrutin.
Exactement, ouais, tout à fait. On a aussi une autre carte, une nouvelle carte dans ce jeu assez complexe de la première circonscription, LFI.
Oui.
Qui part avec justement Ouari Belgherbi, oui, et une élue que l'on connaît, oui, Karine Fischer, en tant que remplaçante.
Karine Fischer qui est toujours enseignante, ouais, à l'université
et qui est conseillère régionale au conseil régional de Centre-Val de Loire. Et ça, pour le coup, c'est une inconnue, pour le coup, parce qu'ils se sont ni présentés en 2022 ni en 2024. Vont-ils manger une partie des voix du Parti Socialiste? Vont-ils pouvoir aller chercher au-delà de ces bases-là, dans une circonscription qui comprend notamment un quartier de la politique de la ville, hein, le quartier de la Source? Ça, c'est une inconnue pour le coup. Je t'avoue que j'ai beaucoup de mal à analyser cette situation. Et puis, pour ce qui est du Rassemblement National, il va y avoir aussi un petit caillou dans leurs chaussures, oui, avec Nicole Maurice, oui, pour Reconquête, qui se présente dans cette élection.
C'est donc 5 candidats et candidates. Hein, j'ai vu son nom, mais je ne savais pas. Ok.
Ouais, exactement.
2 candidats, 2 listes d'extrême droite.
Et alors, un petit truc aussi, c'est que Stéphane Hirst, il y a 4 jours, auprès de La République du Centre, avait déclaré que si elle perdait, elle proposerait sa démission, mais surtout, elle entre. Ouais, au gouvernement, exactement, oui, précisons-le bien. Donc c'est-à-dire que si elle perd tout, hein, vraiment. Mais surtout, elle entretient un peu le flou actuellement sur le barrage républicain. On lui a posé la question, c'est Nicolas Dacunha qui lui avait posé la question, et elle répond: nous allons commencer la campagne avec l'idée d'être en tête pour ne pas avoir cette question à se poser, je n'envisage pas cette situation.
D'accord.
Alors que sa, con- concurrente Ghislaine Kounowski, elle, du coup, s'était retirée. Et on sait que voilà, c'est sans équivoque de ce côté-là, certainement.
Oui,
et
puis alors, quelle campagne, hein, parce que rappelons quand même que le premier tour, c'est le 18 janvier.
Oui.
Hein, donc, dans quelques jours.
Ah, bah oui, hein, c'est arrivé très très vite, hein, voilà. À tel point qu'on n'a pas eu le temps d'inviter les candidats.
Il est fort probable que la plupart des candidats auront du mal à faire du porte-à-porte pour faire valoir leur candidature, et encore moins à Stéphane Hirst, qui visiblement a quelques soucis avec les médecins en ce moment.
Je suis persuadé que l'abstention va être un. Là, sur cette élection-là,
Je suis à peu près certain qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant, hein, qu'il y a une élection législative qui va se jouer sur leur circonscription.
Évidemment, tu sais que la source, c'est mon quartier. Il y a plein de gens, de copains qui y habitent, qui ne sont pas au courant. Enfin, voilà.
Il faut qu'ils écoutent Radio Campus.
Mais bien sûr, mais maintenant, ils savent. Ils savent. Donc, voilà, élection, c'est 18 janvier, hein, pour le premier tour, en tout cas.
Donc, taux de participation de 120% après Radio Campus.
Oui, c'est ça, absolument. On continue pour finir avec un jingle toujours. Pour couper.
Ah, bah, attends, rompu, 19h20 sur Radio Campus Orléans.
Quelle variété de jingle.
Et sur Radio Campus Tours, pour parler de ce qui est arrivé au Venezuela.
Ouais.
Le shérif is back.
Ouais, shérif is back.
Ouais, c'est le Donald Trump, amazing.
Ouais, effectivement.
Est arrivé et dans son sommeil, a enlevé, parce que c'est de l'enlèvement, hein, ce qui s'est passé.
Ouais, c'est
un truc de voyou.
Oui, effectivement, oui.
La première puissance du monde.
En fait, ouais, on a affaire à un prédateur, hein, de la plus redoutable espèce. Hein. Mmh. Un infatigable carnivore prêt à dévorer tout ce qui se met en travers de son chemin.
On commence. Alors.
Toute cette énergie.
Attends,
ça t'accorde. il m'a ruiné mon truc, là.
Attends, je la remets.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Ah bah voilà, Jordan Bardella, pardonnez-moi, vraiment, on vous avait perdu quelques petites secondes, mais alors, calmez-vous un petit peu quand même, on sait que vous êtes un amoureux de Trump, mais il faut pas trop que ça se voit quand même. Surtout avec ce kidnapping orchestré du président d'un pays souverain, et ce au mépris du droit international, sans aval des parlementaires américains, et encore moins des Nations Unies. Ça fait quand même mauvais genre, vous comprenez?
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
C'est pas ça. C'est ça. Bah oui, non, mais je te file des réponses. Bon, bref, je vais le faire tout seul, mon petit Hassan. Il nous a présenté un petit communiqué. Il nous a tendu un petit communiqué. Et du coup, je me demande bien un peu ce qu'il nous a écrit sur ses réseaux sociaux. Alors, Jordan, vous nous dites que, je cite, « le régime rouge de Nicolas Maduro appelle de nombreuses critiques légitimes sur le plan démocratique. Des millions de Vénézuéliens ont souffert de cette dictature sanguinaire et sans pitié qui a privé de droits politiques l'opposition et entretenu le pays dans une interminable crise économique. Blablabla, ok. Et ensuite, eh bien, je rouvre les guillemets. Pour autant, le respect du droit international et de la souveraineté des États ne peut être à géométrie variable. Le renversement extérieur d'un gouvernement par la force ne saurait constituer une réponse acceptable, ne faisant qu'aggraver l'instabilité géopolitique de notre temps. » Fin de citation. Vous concluez Jordan Bardella en déclarant qu'à ce stade, je vous cite, « nous ne pouvons qu'appeler à ce que la parole soit rendue dans les plus brefs délais au peuple vénézuélien, afin qu'il puisse sortir de cette crise majeure par un processus démocratique libre, transparent et loyal. » Fin de citation. Et du côté de Marine Le Pen, sur ses propres réseaux sociaux, eh bien, c'est la même tonalité. Bah, dites-moi, messieurs, dames, vous prenez des airs bien gaullistes pour les héritiers d'un parti fondé par d'anciens membres de l'OAS ou ex-SS. Comment, Jordan? Plus c'est gros, mieux ça passe, vous dites? Ouais, enfin, encore une référence de gaulliste, là. Faites attention, ça, parce que ça va finir par se voir. Hein. Enfin, soit, c'est tout beau, c'est tout propre. Du côté de la gauche, les condamnations sont unanimes pour fustiger le bafouement de toutes les règles du droit international. À droite, un grand nombre de personnalités ont aussi exprimé leur désapprobation face à l'opération américaine. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué sur X que, je cite, « l'opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. » La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir. Fin de citation. Et puis, il y a un homme perché dans sa tour d'ivoire.
Je ne vois pas du tout de qui tu parles.
Emmanuel Macron, bien sûr. Samedi dernier, j'ai découvert avec stupéfaction et horreur qu'il existe un monde, il existe une timeline, une dimension dans laquelle je me retrouve davantage en accord sur une question internationale avec des représentants de la nauséabonde extrême droite française plutôt qu'avec un chef d'État libéral censé porter une position historique de défense de la souveraineté des pays.
Reviens immédiatement avec nous. Rattrapez-le.
Il s'est fait mal.
Je suis fait mal. Je cite le communiqué lunaire, ou plutôt jupitérien. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son peuple. Je finis cette citation du début de son communiqué. Alors, soit, Les élections de 2024 semblent avoir été un simulacre de démocratie, selon des ONG sérieuses comme Human Rights Watch ou la Fondation Carter, ou encore un panel d'experts aussi des Nations Unies, sans compter les nombreuses répressions brutales exercées à l'encontre des opposants politiques après ces élections. Arrestations arbitraires, tortures, meurtres et disparitions volontaires sont ainsi devenues presque monnaie courante suite à ces élections. Et l'incompétence ainsi que l'ego de Maduro l'ont conduit à entraîner le chavisme sur une pente autodestructrice, bien aidé aussi par les sanctions économiques américaines. John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale américaine, avait élaboré ce plan de sanctions en pensant à Dark Vador et à son pouvoir d'étranglement à distance à l'aide de la force dans Star Wars. Je n'invente rien, c'est à découvrir dans un documentaire récent sur Arte. C'est quand même pour vous dire le niveau du truc. Mais s'il reste important de préciser que Nicolas Maduro n'a rien d'un personnage admirable, on se serait aussi en droit d'attendre autre chose de la part du président de la France, cet État qui place le droit international au centre de sa politique étrangère. Or, dans la suite de ce communiqué, il ne sera à aucun moment fait mention de l'intervention de Donald Trump, du gouvernement américain, et encore moins de ce piétinement de toutes les règles basiques qui régissent la diplomatie internationale. Donald Trump kidnappe illégalement le chef d'un État souverain, aussi déplorable, horrible et illégitime soit-il. Il bombarde, il massacre à coups de missiles des centaines de personnes dans des eaux internationales au nom d'une soi-disant lutte contre le narcoterrorisme, prétexte utilisé pour s'accaparer les ressources pétrolières de ce pays et saper l'influence des régimes sud-américains qui sont non alignés sur les États-Unis. Les conséquences de cette action risquent de se ressentir bien au-delà de ce continent. Alors que la Chine lorgne depuis très longtemps sur l'île de Taïwan, quels arguments pourrons-nous dorénavant lui opposer quand la soi-disante grande puissance économique et démocratique démontre que désormais la force a remplacé le droit? Et dans ce multivers de zinzin, une dernière limite reste à franchir. Donald Trump assure qu'il va s'occuper du Groenland dans environ 2 mois, un pays constitutif du Royaume du Danemark, lui-même inscrit dans l'Union Européenne et l'OTAN. Si le POTUS ose, et il en est bien capable, ce sera certainement la dernière digue du droit international qui sautera. Je sens qu'on va bien s'éclater en 2026, ouais, et surtout au sens propre.
Ouais, il est temps qu'on crève tous.
Alors, la dernière digue, je trouve qu'on l'a déjà bien franchie. Hein.
Ouais, mais oui. Là, tu passerais quand même sur un état vraiment affilié à l'OTAN, voilà, à l'Union Européenne.
Ce qui serait quand même intéressant, c'est qu'effectivement, le Groenland, c'est l'Union Européenne, par extension, c'est l'OTAN, que sont donc les alliés des États-Unis. Et que Donald Trump pourrait déclarer la guerre à l'Europe d'une certaine manière.
Mais c'est ce que ça veut dire, exactement.
Donc la question est de savoir, est-ce qu'on est capable, nous, maintenant, de faire passer un message à Donald Trump? Est-ce qu'on va envoyer, nous, des troupes au Groenland pour aller stationner le temps que la situation s'améliore? Je suis pas certain qu'on va aller se battre pour le Groenland.
Mais certains experts.
Quand tu vois les réactions européennes.
Certains experts ont dit que ça serait une promenade de santé pour les États-Unis, s'ils décidaient de faire. Non, parce que surtout aussi par rapport à l'apathie européenne, en fin de compte.
Ils sont déjà implantés, ils ont déjà des troupes sur place.
C'est ça, oui. Oui, il y a des bases militaires déjà.
Des bases militaires déjà au Groenland.
Giorgia Meloni de l'Italie dit que c'était une super idée.
Et puis sa déclaration. Non, et puis là, je trouve que ça, c'est monté encore en température dans Air Force One, sa dernière déclaration. Oui. Je la trouve beaucoup plus franche, beaucoup plus directe que ce qu'il avait pu exprimer auparavant sur le Groenland. Mmh. Parce que jusqu'à présent, il arrivait à faire passer un petit peu ça comme des plaisanteries, des boutades. On ne savait pas s'il était trop sérieux. Là, c'est vraiment. Ça fait peur.
Pascal Sudre, vous avez une réaction là-dessus? Je sais que vous avez, sur le Venezuela, vous avez réagi, mais en tant que citoyen?
Oui, après, moi particulièrement, bien sûr, j'ai une crainte sur la question de la paix dans le monde, oui. Même si la guerre n'a jamais disparu de l'ensemble des continents. J'ai souvent en tête la question de Gaza aujourd'hui, parce que le conflit est loin d'être fini, parce que les forces sionistes continuent à tuer les Palestiniens. Première chose, une pensée pour eux, mais sur la situation au Venezuela, je pense que au-delà de la dénonciation des agissements des États-Unis d'Amérique, mais derrière, il y a bien sûr les multinationales, notamment pétrolifères, parce que c'est les premières réserves du monde, mais il n'y a pas d'ailleurs que le pétrole, il y a des gisements de gaz, le Venezuela, un pays très très riche en fait.
C'est tout le panel de ce qu'aiment les Trump et les amis de Trump.
Et très bien placé géopolitiquement parlant. Mais ce qui est très inquiétant, et je pense que ça a été bien, bien relayé là, c'est les propos du président de la République française. Au-delà des désaccords que la CGT peut avoir avec le président de la République, en tout cas, on n'a jamais connu un tel alignement de la France vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, quoi. Et ça, c'est vraiment un propos sur lequel il faut vraiment réagir, et vivement. Il y a eu des réactions de certains partis politiques, pas tous, Mais c'est vraiment une inquiétude, hein, parce qu'on n'a jamais connu ça. Et donc, du coup, Emmanuel Macron, qui dénonce pas finalement l'illégalité de l'intervention des États-Unis, s'il ne la dénonce pas, c'est-à-dire qu'il l'approuve, et ça veut dire qu'il donne quitus à Donald Trump et surtout aux multinationales états-uniennes de continuer finalement à intervenir partout où ils veulent. C'est la question du plus fort, en fait. Et du coup, en dehors, vous l'avez dit, et tout le monde l'a dit, du droit international, qui est brandi quand ça les arrange, mais quand ça les arrange pas. Et ça, c'est vraiment très inquiétant, du coup, cette absence de positionnement clair de la France, quoi.